Candide et les experts. Une émission produite par Monique Fauché.
Laurent Deconne, bonjour.
Bonjour.
Alors, évidemment, vous êtes venu à deux reprises déjà pour notre grand plaisir. Je rappelle simplement à nos auditeurs que vous êtes avocat au barreau de Toulouse et que nous étions dans... J'ai dû vous interrompre parce que la séquence de 12 minutes est trop courte, bien entendu. Vous nous avez expliqué, parlé de la rencontre avec le client, rencontre primordiale, rencontre assez très importante, évidemment, et un peu stressante, vous m'avez dit, parce qu'en fait, ce premier contact peut déboucher sur des tas de choses, sur des propos, sur des confidences. Ça peut être... Et puis, en fait, j'y réfléchissais, vous devez être très psychologue, parce que certains peuvent se bloquer.
Oui, le premier contact est très important. C'est un contact souvent entre deux timidités. Puisque le client est timide, il a affaire à un homme de loi ou une femme de loi qu'il ne connaît pas, qui peut l'impressionner.
L'avocat sait qu'il faut qu'il aille sur la pointe des pieds.
Et l'avocat, il va sur la pointe des pieds parce qu'il ne sait pas très bien à qui il a affaire. Il ne faut pas brusquer, il ne faut pas déplaire, il ne faut pas dissuader. Et en même temps, il faut montrer qu'on s'intéresse et qu'on a une certaine compétence. Donc, c'est un contact délicat.
Très délicat. Vous lui donnez des conseils?
Pour donner des conseils, il faut d'abord recevoir les informations.
Toutes les informations.
Mais bien sûr, on donne des conseils puisque c'est pour cela qu'on vient nous voir.
Et vous décodez les informations? Vous savez quand il vous dit la vérité, quand il ne vous dit pas la vérité?
C'est très variable et très compliqué. C'est un vaste sujet. Le client ne dit pas forcément la vérité à son avocat, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Oui. Alors sur des sujets ordinaires ou banaux, peut-être, mais sur les sujets profonds, pas forcément.
Mmh. Oui. Alors, la plaidoirie, moi je me suis posé la question, est-ce que dans les études, vous, lorsque vous faisiez vos études, est-ce que vous avez eu des cours d'éloquence ou des cours pour plaider, pour peut-être...
Alors, on faisait l'objet d'une formation assez légère à l'époque, à l'Institut d'études judiciaires, avec des domaines techniques. Le domaine de la déontologie, qui est très important chez les avocats.
On en parlera, oui.
L'examen pour devenir avocat, qui s'appelle le CAPA, Certificat d'aptitude à la profession d'avocat, passé par un exercice de culture générale et de plaidoirie.
Culture générale.
C'était une plaidoirie à la fois juridique et culturelle, en quelque sorte. Donc
d'accord.
Il fallait un peu mélanger les deux. Donc on nous entraînait à cela, mais assez modestement.
Oui. Bon, c'est sur le tas que...
C'est sur le tas qu'on apprend à plaider, si jamais on apprend à plaider. Alors, en fait, on apprend à avoir un style, déjà, à être soi-même, à trouver son ton, à trouver sa voix, son port de voix, sa façon de s'exprimer.
La voix, c'est important.
La voix, c'est très important. Ouais. Donc, il faut apprendre à la poser. Et c'est pas simple parce que la poser dans une cour d'assises, c'est toujours problématique. Ouais. Sauf si on est doté d'un organe exceptionnel, ce qui est le cas de certains avocats. Mais il faut pouvoir trouver cette façon de faire porter la voix sans forcer, qui est aussi quelquefois la façon des chanteurs d'opéra.
Ouais. Il y a la gestuelle également.
La gestuelle est importante, mais ça, la gestuelle, elle est, si je puis dire, le corollaire un peu naturel de la parole. On ne l'étudie pas forcément. Alors, ça s'apprend sans s'apprendre. Il y a des traités d'éloquence, on peut remonter à Cicéron, notamment. Il y a un très bon livre qui est sorti récemment d'un avocat parisien merveilleux qui s'appelle Antoine V., qui parle de l'affaire Assange. Il a assisté Julian Assange et il a fait un livre...
Celui qui a été enfermé pendant des années.
Voilà, pour avoir diffusé,
dit la vérité.
Publié des documents confidentiels de l'armée américaine. Mais sur le fond, on en pense ce qu'on veut.
C'est un autre problème, oui.
Mais ce livre qui s'appelle « La plaidoirie impossible » est en réalité un petit traité d'éloquence judiciaire assez remarquable. Voilà, donc On apprend, on peut lire, on peut s'exercer, on peut écouter les autres.
Voilà, j'allais vous dire, est-ce que vous écoutez, si vous pouvez, maintenant, on n'enregistre pas, si ?
Non, l'enregistrement des audiences est prohibé depuis
c'est dommage.
50 ou 60 ans. Ah,
pourquoi ?
Je crois que c'est à partir de 1945. Alors, pourquoi ? Parce que l'audience, c'est un lieu sacré. Moi, je suis pas tout à fait favorable à ce qu'on enregistre les audiences. Alors, il y a des exceptions maintenant quand c'est un procès historique. En plus, maintenant, devant les cours d'assises, quand c'est un procès susceptible d'appel,
L'affaire
Barbie a été enregistrée pour le public à titre historique. Mais par ailleurs, les débats des cours d'assises sont enregistrés maintenant pour vérifier ensuite la régularité de la procédure, en schématisant. Mais ce n'est pas accessible au public, c'est conservé dans des archives judiciaires. Mais le procès, c'est un lieu un peu... C'est un événement un peu mystérieux, un peu sacré. Et il faut qu'on puisse avoir une liberté totale de parole. Or, si on sait que sa parole va être enregistrée, écoutée ensuite, ça complique les choses.
Oui, effectivement. Alors je me disais aussi, en revanche, vous pouvez lire des plaidoiries, non ?
Alors, la plaidoirie est quelquefois écrite.
Moi,
j'ai assisté à des plaidoiries entièrement écrites, notamment d'avocats parisiens, d'avocats célèbres, mais c'est très mauvais.
Parce qu'ils ne parlaient pas.
Pour parler net. Ah si, non, ils parlent, mais ils lisent leurs plaidoiries.
Elles sont écrites,
mais on lit, on annonce une plaidoirie écrite, en essayant d'y mettre l'accent et le ton. Mais la plupart du temps, c'est une catastrophe. Mais on ne peut pas se passer non plus de notes.
Oui, évidemment.
Il faut pouvoir se reposer sur des notes, avoir des fils conducteurs,
des grandes lignes, des phrases déjà
préparées pour qu'on puisse s'appuyer sur elles au moment où l'imagination peut fléchir
déroulé logique aussi.
C'est très compliqué. C'est un exercice tellement compliqué que je ne prétends pas le connaître ni le maîtriser et je ne pense pas qu'on puisse vraiment l'apprendre.
Oui.
Voilà. C'est sur le tas.
Oui.
Et
quelquefois,
ça fonctionne et quelquefois, ça ne fonctionne pas.
Oui. Il y a eu des moments où vous n'étiez pas satisfait de votre plaidoirie ?
Bien sûr. Ouais. Bien sûr. La plupart du temps. La plupart du temps, on se dit après...
Oui, on est exigeant avec soi-même.
Pourquoi je n'ai pas soulevé...
Tel ou tel problème. C'est un peu développé. Comme dans les interviews, finalement.
Mais bien sûr, c'est un peu le même exercice.
Oui. Voilà. Alors, est-ce que... Que faut-il à un avocat donc pour plaider ? Les qualités, vous en avez parlé, des qualités... Est-ce que l'humour, par exemple, parce que je connais le vôtre, est-ce que l'humour a droit de citer dans une plaidoirie ?
Oui. La réponse est oui. L'humour est toujours profitable. Il décontracte, il détend et il va directement au cœur de, si je puis dire, au cœur de l'esprit auquel on s'adresse. Parce que c'est un mode de communication très très efficace. Et l'humour n'est pas exclu même des dossiers dramatiques. Et dans des affaires dramatiques criminelles, il y a des moments d'étrange détente où tout d'un coup le rire surgit. Un rire qu'on étouffe assez rapidement.
C'est arrivé, c'est...
Mais oui, j'ai assisté à des scènes cocasses au milieu de procès criminels terribles. Dans l'affaire Jacomet, notamment, à un moment, il y a eu un éclat de rire. Parce qu'il y avait un interprète qui était sourd, qui ne comprenait rien de ce qu'on lui disait, ce qui compliquait bien sa tâche.
Oui, on peut attraper un fou rire.
Et par moment, il y avait le fou rire.
Oui. Alors, ce que j'ai appris aussi, c'est qu'il y avait des plaidoiries dites ouvertes et des plaidoiries fermées. C'est peut-être jargon entre vous. Est-ce que ça signifie quand vraiment l'affaire, on sait que l'affaire, l'impétrant ne s'en tirera pas facilement ? Est-ce que c'est ça qui...
Alors, il y a une très grande variété de situations. Il y a des dossiers qui sont implaidables parce que des culpabilités sont manifestes, mais que l'auteur refuse d'admettre cette culpabilité. Bon, d'abord, on n'en est jamais sûr à 100% non plus.
Et oui.
Mais il y a un exemple récent, assez frappant, puisqu'il concerne Éric Dupond-Moretti, qui a plaidé un peu contre la position de son client, ce qui a posé un problème philosophique ou déontologique même, mais il a pris ses responsabilités.
En essayant de le sauver, justement.
En essayant de le sauver du mieux qu'il pouvait.
Voilà. Et le client n'a pas compris ?
Et je crois que le client n'a pas compris et ça a été un peu compliqué. Voilà. Donc, il y a des moments où il faut prendre des risques et se trouver dans des positions acrobatiques. Il vaut mieux l'éviter quand même.
Oui.
Et dans ce cas, quand on est vraiment dans une situation de ce type, il faut mieux se déporter. Mais on ne peut pas abandonner non plus complètement son client au motif qu'il n'est pas apte à comprendre cela.
D'accord. Alors, nous avons parlé de nombreuses qualités que l'on doit trouver dans une plaidoirie, mais on n'a pas parlé de l'émotion. Ce qui m'a frappé, figurez-vous, c'est que nuitamment, sur France Culture, il y a quelques jours à peine, on faisait passer une interview de Maître Badinter, que nous avons interviewé ensemble il y a fort longtemps même.
Je m'en souviens.
Qui disait qu'on peut faire des solicismes, on peut faire des barbarismes, mais ce qui compte, c'est la force de conviction. Et quelqu'un d'autre a dit, un autre avocat a dit, l'émotion aussi qui peut passer.
L'émotion, elle est partout.
Oui.
Elle est à chaque instant.
Ouais.
Notamment dans les procès importants, mais que ce soit devant le tribunal correctionnel ou devant les cours d'assises ou même dans des affaires civiles. Chez l'avocat, l'émotion, elle est permanente. Il faut que cette émotion gagne ce qu'on veut convaincre.
Oui,
le public, mais surtout les jurés cour d'assises ou les magistrats professionnels. Mais il ne faut pas non plus trop jouer sur l'émotion.
Ouais.
Il ne faut pas rentrer dans la complaisance émotive.
Oui.
Il faut rester dans une forme de recul, de distinction, me semble-t-il, pour que l'émotion qu'on porte soit bien comprise de ceux à qui on s'adresse.
Absolument. Laurent Decaune, voilà, notre temps est parti, mais on se retrouve si vous voulez bien.
Volontiers.
Ah donc, je dis à nos auditeurs à la semaine prochaine.